On se retrouve sur le plateau de Du dans la folie N4, dite folie observatoire, sur le parc de la Villette pour cette soirée de lancement. C'est les 35 ans du parc et l'installation de Du dans ses nouveaux studios. Et autour de la table, on a Yannick, F4HDA, Hôtel Delta Alpha, représentant de l'Electrolab de Nanterre, qui va nous raconter tout de suite un peu plus ce que c'est que cette chose. Et Bernard, F6 Bravo, Victor Papa. Représentant de Dimension Parabole. Et vous êtes, on peut dire, vous êtes tous les deux radioamateurs, déjà.
Absolument,
tout à fait.
D'où ces lettres à la fin. Peut-être dire rapidement à quoi ça correspond pour le public.
F, c'est Foxtrot, c'est l'indicatif, commence par Foxtrot, c'est l'indicatif radioamateur en France qui nous est attribué par les autorités de régulation. Ensuite, il y a un chiffre et puis des lettres, mais ça, c'est comme un indicatif classique. Enfin, on va dire, tu sais, sur les avions, par exemple, tu as des Foxtrot quelque chose. Enfin...
OK.
Oui, tout à fait. On passe un examen pour pouvoir être radioamateur, pour avoir le droit de construire ses propres équipements, pour avoir le droit de pouvoir accéder au terrain de jeu que sont les bandes radio, pour pouvoir accéder à ce terrain de jeu-là, pour pouvoir faire de l'expérimentation en réalité. Et donc, il faut justifier que techniquement et d'un point de vue réglementation, on est un peu carré, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on passe un examen pour ça. À l'issue de cet examen, l'administration attribue un indicatif qui doit précéder et terminer chacune des transmissions pour pouvoir identifier qui a effectué la transmission.
L'examen n'est pas en soi très compliqué. Il y a beaucoup de... Disons, l'aspect le plus rébarbatif, c'est le côté réglementation, connaître les fréquences, nos droits, savoir ce qu'on a le droit d'utiliser, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Le côté technique, bon, c'est un petit peu notre passion, donc ce n'est pas un problème. Et puis aussi, autrefois, il y a encore pas mal de gens qui font de la télégraphie, la C-double, comme on dit chez nous. Et nous sommes pratiquement les gardiens de cette espèce de mode de transmission qui fait un peu vintage maintenant, mais oui. qui est très efficace.
On reparlera du morse en fin de juste pour faire la transition avec, avec l'artiste Jean-Baptiste Gann qu'on va recevoir juste après. Mais avant d'en arriver au morse, du coup, cette licence donne le droit d'utiliser un certain nombre de machines, comme par exemple ce qui est posé sur la table derrière moi, ce qu'on a entendu un peu depuis le début de la soirée en transition des différentes choses. Cette machine, voilà, qu'on entend. Merci Julien. Est-ce que vous pourriez juste nous dire rapidement ce que c'est que cette machine ? Est-ce qu'on entend quand on sait ces voix-là, etc.
Alors tout à fait. Là, c'est un émetteur-récepteur. En fait, c'est un système... En l'occurrence, c'est un appareil commercial. Bon, on a apporté ce qu'on a... apporter ce qu'on a pu, qui est actuellement, il fonctionne, on l'a branché sur une des bandes radioamateurs. Il faut savoir qu'il y a des bandes radio sur les ondes courtes qui sont attribuées aux radioamateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que les radioamateurs, en fait, ont inventé les ondes courtes. Ils ont inventé les fréquences en dessous de 2 MHz. Il faut savoir que dans les années 1920, la théorie officielle et les expérimentations, c'était des kilowatts et des kilowatts et des milliers de kilowatts sur des longueurs d'ondes assez longues. Et on a dit à ceux qui voulaient un peu bricoler, enfin, à cette époque-là, ils ont dit bah, tout ce qui est en dessous de 200 mètres, on vous le donne, vous faites ce que vous voulez avec. Et les radioamateurs ont commencé à expérimenter. Et ils ont découvert, tout simplement, l'ionosphère. C'est-à-dire qu'ils ont découvert le mode de propagation par rebond sur l'atmosphère, enfin l'ionosphère. Et donc, ils ont réussi à faire des liaisons à très, très grande distance. Par exemple, la première liaison transatlantique entre 1MO et 8AB. 8AB était un médecin parisien. 1MO, c'était un Américain. Avec des puissances ridicules. Et là, ça a été une découverte extraordinaire. Donc, c'est une découverte expérimentale par hasard. Et donc, de ce fait, les radioamateurs sont à l'heure actuelle tributaires. Enfin, on leur attribue des bandes de fréquences qui leur sont exclusives et d'autres qui sont partagées.
Et un point important, c'est que bon, là, il se trouve que le hasard des choses a fait que c'est un équipement commercial, mais tout l'intérêt et toute la magie de cette licence, du fait de passer cette licence-là, c'est d'avoir le droit de construire ses propres équipements, et parce que c'est un terrain d'expérimentation. Et on est les seuls utilisateurs du spectre radioélectrique qui ont le droit de construire leurs propres équipements.
Sans besoin de... comment dire, de...
Sans les faire certifier, sans aller dans un labo de certification,
etc. C'est un petit peu comme l'ULM dans l'aérologie.
Ouais. Et alors, on pourrait dire, du coup, que peut-être grâce à ces inventions historiques dans les années 20, ces découvertes, ces évolutions, ces bidouilles...
Tout à fait.
C'est ça qui permet que ces bandes de fréquences restent allouées à chaque réunion de l'UIT pour les radioamateurs. En tout cas, c'est une sorte de... Parce que Il y a des enjeux politiques, économiques, etc. énormes, avec commerciaux sur les partages des fréquences. Mmh. Et le radioamateur, c'est une pratique bénévole, ouais. En tout cas sans
intérêt pécuniaire. En fait, nous sommes reconnus comme un service radioamateur, c'est-à-dire au niveau international. Il y a des conférences à l'heure actuelle sont permanentes, des radiocommunications, d'attribution des fréquences. Et ces fréquences sont renouvelées. Alors de nos jours, les fréquences ondes courtes, des cas métriques, sont beaucoup moins disputés qu'autrefois, parce que maintenant les télécommunications commerciales sont dans des fréquences extrêmement élevées.
Parce qu'il y a besoin de bandes passantes, voilà, on a besoin de beaucoup de mégabits par seconde.
On a besoin autrefois, on a dû se battre pour garder notre 7 MHz, qui était très très convoité. De nos jours, c'est moins chaud de ce côté-là. Et en fait, pourquoi service amateur? Parce qu'en fait, d'une certaine façon, on rend service. C'est un système.
En cas de tempête.
En cas de catastrophe naturelle.
Crash d'avion.
Les radioamateurs se mobilisent spontanément pour retrouver des avions quand il y a une balise qui est perdue.
Enfin, on est partenaire de la sécurité civile, par exemple.
Il y a des exercices avec la protection civile. Il y a aux États-Unis, par exemple, les radioamateurs sont subventionnés par les autorités locales pour faire des réseaux d'urgence, etc. etc. En France, on le fait bénévolement.
Il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un sujet infini, le radioamateurisme. Alors peut-être, je propose qu'on se concentre tout de suite sur... On a ce grand objet derrière nous qui est un radiotélescope de 10 mètres de diamètre, de 20 mètres de haut à peu près.
Ouais.
Et qui peut permettre... qui peut permettre plein de choses, mais en particulier pour les pratiques radioamateurs, certaines choses assez précises.
Alors, l'histoire ici fait que, ici, la Cité des Sciences donc, a eu un certain nombre d'années, mais ils avaient probablement, à l'époque, construit ce radiotélescope, cette antenne, qui est située dans le jardin du parc, l'établissement public du parc de la Villette et de la Grande Halle, pour faire de l'observation un radiotélescope. Qu'est-ce que c'est qu'un radiotélescope? C'est un miroir pour les ondes radio. C'est comme un télescope optique. Il se trouve que là, les ondes optiques et les radios, c'est un petit peu la même chose, mais ce n'est pas les mêmes fréquences, mais c'est le même principe électromagnétique. Et donc, ce grillage, ce radiotélescope, était destiné à observer ce qu'on appelle la raie hydrogène. En fait, dans la galaxie, dans l'univers qui nous entoure, et en particulier notre galaxie, il y a énormément d'hydrogène. Et cet hydrogène atomique, c'est-à-dire que la partie atomique, émet un signal sur une raie spectrale. Il a sa fréquence d'émission. Et ce radiotélescope, cette antenne, est destinée à faire une cartographie de la galaxie pour faire la carte de la galaxie. Et par des procédés de calcul un peu spéciaux, un peu compliqués, on peut arriver à avoir une image de la galaxie en trois dimensions, savoir un petit peu comment elle est organisée. Maintenant, c'est un petit peu dépassé, autant en termes de scientifiques, mais ceci dit, la Villette n'a jamais exploité cet appareil. Et absolument. Il y a quelques années, nous sommes venus, en tant que radioamateurs, les trouver en leur disant, écoutez, vous avez une magnifique antenne, nous aimerions bien faire joujou avec. Et bon, on s'est mis d'accord avec eux, le projet a un petit peu traîné, maintenant il est reparti.
Voilà.
Et l'idée, c'est de le réhabiliter grâce à Yannick et ses amis d'Electrolab. On va la réhabiliter.
Et c'est peut-être parce qu'effectivement, c'est passé par plein de rebondissements incroyables. Si on les listait, ça serait très long. Et là, tout d'un coup, le nouvel espoir, pour reprendre un titre de film bien connu, arrive avec Electrolab. Et peut-être, Yannick, tu peux nous présenter rapidement un peu ce que c'est qu'Electrolab et comment tout d'un coup, vous arrivez en deux jours, vous avez déjà...
L'Electrolab, c'est une asso. J'ai participé à la fondation de cette association il y a quelques années maintenant, en 2010. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'Electrolab? C'est un établissement de culture scientifique et technique, dont l'objet est la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences et des techniques. Donc. Et c'est complètement associatif. Ça a été fait complètement sur fonds privés, c'est-à-dire que c'est des bénévoles qui ont trouvé un endroit où on les laissait faire et qui ont construit cet espace un peu fou où tout un chacun se rencontre pour partager des connaissances. Donc il y a des formations et tout un tas de choses. Et puis pour apprendre les uns des autres et apprendre en faisant. Voilà. C'est-à-dire qu'on a réuni des équipements, des machines-outils, des équipements de mesure en électronique, et puis plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça. La technique, ça relève plein d'autres réalités. On a de la fonderie, de la couture, de la forge, Voilà. La technique, c'est des techniques industrielles, c'est quelque chose d'assez vaste. Et toutes ces techniques sont les bienvenues chez nous. On a un espace de 1500 m² qu'on loue à Nanterre et qui est le lieu où on fait vivre ce rêve depuis quelques années maintenant. Voilà. Ouais. Et donc on a eu l'agréable surprise de recevoir Bernard un jour qui est venu visiter le lieu et qui nous a parlé de son rêve fou de parabole. Et comme nous, c'était à l'époque où on venait juste de monter une station sol pour parler avec, pour communiquer, pour être une station sol secondaire pour des satellites étudiants, eh bien, on a dit, voilà, c'est un peu dans le prolongement de ce projet de station sol satellite. Et c'est un nouvel équipement qu'on peut mettre à disposition pour des observations dans Paris, ce qui est un truc complètement fou, quoi. Voilà, une parabole de 10 mètres de diamètre en plein Paris pour pouvoir faire des observations astronomiques, et puis peut-être demain pour s'en servir aussi, moyennant quelques petites modifications qu'on pourra peut-être faire pour l'utiliser avec d'autres satellites étudiants dans d'autres bandes de fréquences. Et voilà, ça nous a beaucoup motivés, et on a eu envie de participer à ce projet-là, et donc on essaie de répondre présentement.
Et là, vous avez remis en route les moteurs.
Ouais, alors on s'est appuyé sur le travail énorme qui avait déjà été fait par d'autres radioamateurs il y a quelques années maintenant, il y a 6-7 ans, 8 ans, et qui avait déjà commencé le travail de rétro-ingénierie pour comprendre comment tout ça marchait, parce que bien sûr, les documentations ont été perdues. et donc, il a fallu comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc il y a pas mal de gens qui ont bossé là-dessus, qui ont fait du travail de rétro-ingénierie, de documentation. Et donc on s'est appuyé là-dessus pour refaire marcher et puis pour essayer de résoudre les problèmes les uns après les autres, parce que forcément on en rencontre. Et donc côté électronique, de l'électronique qui reste dehors pendant 10 ans, il faut un peu la retaper, c'est normal, remplacer quelques composants qui ont les pattes qui ont commencé à disparaître à cause de l'oxydation, ça, voilà. Donc on a fait ça. Là on a un petit souci avec un peu de mécanique aussi, où il y a un moteur qui nous donne quelques frayeurs, mais on va le soigner, on va le réparer, on va l'opérer et on va le réparer.
Super, du coup vous allez revenir régulièrement dans les prochains temps, j'imagine, parce qu'il y a encore pas mal de
boulot. Oui, tout à fait.
Mais c'était très joli de voir aujourd'hui la parabole s'animer,
tourner
sur elle-même un peu, très lentement, on n'avait pas forcément l'impression.
Alors dans les projets, on n'a pas simplement évidemment des projets de faire de la science, de la radioastronomie. En tant que radioamateur, ce qui nous intéresse, c'est les télécommunications. Et il y a une des activités radioamateurs qui est assez amusante, ça consiste à viser la Lune avec des antennes, et en particulier une parabole, pas forcément aussi belle que celle-là, mais de se servir de la Lune comme d'un système de réflecteur. Et autant vous dire que la Lune n'a pas été vraiment fabriquée pour ça. Donc ce qu'on envoie, elle réfléchit une partie infime de ce qu'on lui envoie comme signal, et on envoie un signal vers la Lune, et au bout de 400 000 km, ça fait 3 secondes, aller-retour, vous entendez le retour. Et donc vous pouvez communiquer avec, par exemple, en visant la Lune, l'Australie, une station qui est en Australie qui vise la Lune également, et ça revient. Alors c'est un peu du sport, parce que c'est un signal très très faible, mais c'est ça qui est amusant. En fait, c'est le challenge, c'est ça qui nous plaît, et on peut faire des liaisons comme ça.
Et c'est un sport qui fait des émules, parce qu'il se trouve que la folie numérique qui se trouve juste en face de nous là, ce soir, en tout cas toute cette semaine, développé justement avec Daniela Depolis un projet de moon bounce, comme ils appellent ça. Voilà. Et peut-être juste une dernière question pour faire la transition avec le prochain plateau qui est lié à Jean-Baptiste Gann et à son installation Don Quichotte, etc. etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que c'est que le Morse? Je pense que tout le monde le sait, mais peut-être la différence, pas de nature, mais de fonctionnement entre le Morse sonore et le Morse lumineux dans la... Est-ce que vous
pourriez... En fait, le Morse, c'est un code. C'est un code de transmission, c'est-à-dire c'est un moyen de transmettre de l'information. Et ça a été inventé par Samuel Morse, qui a eu une idée extrêmement simple. Enfin, consistait à... vous avez un émetteur, il émet ou il n'émet pas. Donc, c'est un signal tout ou rien. Et il a créé ce code en disant, un bref, c'est un point, pour nous, ou un signal long, c'est un trait. Et en couplant les points et les traits de façon plus ou moins espacée. Ça peut être une sonorité qu'on entend dans un haut-parleur, dans des écouteurs. Ça peut être un trait, un point lumineux. Quand vous êtes dans un bateau, vous pouvez très bien allumer une lampe. Quand vous êtes naufragé sur une île, vous allumez une lampe, vous faites SOS. Tout le monde connaît les trois points, trois traits, trois points. Tout le monde comprend.
Alors peut-être une question, est-ce que c'est plus... On peut écouter, parce qu'on peut écouter du Morse très très rapide. Il y a des gens qui savent très faire ça très bien. Est-ce que visuellement on peut le faire à la même vitesse ou c'est
plus ça, je sais pas.
Alors non, on peut pas tout à fait le faire à la même vitesse visuellement parce que c'est pas le cerveau marche pas tout à fait pareil avec les yeux qu'avec les oreilles. mais ça a été pendant longtemps et c'est encore un moyen de communication d'urgence, par exemple pour la marine, pour les sous-marins. On a un sous-marin derrière nous dans le parc et il se trouve que il y a encore à bord les moyens de communication d'urgence lumineux. Et, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui existe toujours. Et l'idée est simple, c'est de convertir des caractères en une durée, en un signal court, un signal long. Les caractères très utilisés qui reviennent souvent font peu de signes courts-longs. Et ça, des caractères plus rares font plus de signes courts-longs. Et on code un ensemble court-long différent pour chacun des caractères. Et on peut faire passer un texte, un message, quel qu'il soit.
Alors, de nos jours, les radioamateurs sont les derniers à faire vraiment du morse en termes de communication. Les services officiels ont complètement abandonné le système. Je ne sais pas s'ils ont eu raison ou pas. Mais en fait, c'est parce que la technologie a tellement évolué. Alors, nous faisons aussi ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire de la phonie. Mais de la phonie qui peut être de la modulation. Enfin, je passe sur les FM, modulation amplitude, bande latérale unique. Les radioamateurs ont inventé la bande latérale unique. La BLU, c'est les radioamateurs qui l'ont inventée. Je passe là-dessus. Et maintenant, nous faisons du numérique. C'est-à-dire, en fait, nous faisons des transmissions numériques avec des modes de traitement de l'information qui sont tellement performants qu'on arrive à détecter des signaux en dessous du bruit de fond de l'ensemble de la... Je m'approche trop, c'est ça. Et un des radioamateurs qui a inventé un système de détection de signaux très faibles s'appelle John Taylor. Et John Taylor, c'est W1JT, John Taylor. Il est prix Nobel de physique pour avoir découvert les pulsars binaires. Voilà.
Avec des radiotélescopes comme ça.
Comme ça, ouais. Et d'ailleurs, Samuel Morse était peintre aussi. C'est un très bon peintre. Et il n'y a pas que les radioamateurs qui font du morse, il y a aussi Jean-Baptiste Gann, et je propose qu'on fasse un petit bout de radio et qu'on fasse la transition avec Jean-Baptiste. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, Canton. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, Canton. United Tokyo 7 United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, contact. Again. Sorry, where is weak signal? United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, contact. Again. Okay, Echo, Charlie 3, Charlie Victor Delta, many things, 596-675, Roger. One zero five, Roger. Thank you, good luck. United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tango 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. Again. Delta Juliet Lima, please, your traffic. Okay, Echo Alpha 3, Delta Juliet Lima, landing thing 596-676. 4-5, it is Roger. Thank you, United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Toronto 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact. United Tokyo 7 Echo, United Tokyo 7 Echo, contact.